Ville PM. La voix est libre.
Quand on compare nos débats avec ceux qu'on voit dans d'autres pays, je pense qu'on peut tous être très fiers de la façon dont on conduit les nôtres ici. Le Québec fait face aux mêmes défis que tous les pays occidentaux. Les inégalités, l'intégration des immigrants, les changements climatiques. Mais ici, on a réussi à éviter les extrêmes.
Ah, ça c'est bien dit. C'est Geneviève Guilbeault, donc la vice-première ministre, qui, en fin de session, parce que c'est la fin de session aujourd'hui à Québec, c'est la dernière journée de cette très très courte session, la première du nouveau gouvernement de la CAQ. Et donc, parce que M. Legault est à la rencontre des premiers ministres, c'est Mme Guilbeault, la vice-première ministre, donc qui parlait au nom du gouvernement pour transmettre aux Québécois les meilleurs vœux des fêtes. Et c'est une tradition comme ça, dernière journée de la session d'avant Noël. Chaque chef, donc, transmet les vœux de Noël au nom de sa formation politique. Luc, bonjour.
Bonjour, Bernard.
C'est intéressant ce qu'elle disait, Geneviève Guilbeault. Donc, on est capable de faire ces débats-là sans se retrouver avec des extrêmes comme Marine Le Pen ou Donald Trump ou...
Ben, je l'espère de tout cœur.
Ouais.
Les débats commencent. Là.
Ouais. Mais ça fait quand même quelques années qu'on les a.
Oui, mais là, on va arriver dans le crunch. On va arriver dans le légal, là, puis dans le législatif, puis dans les tribunaux, puis dans tout ça.
Bon.
Mais jusqu'à maintenant, elle-même, Geneviève Guilbeault, c'est une vedette, hein, déjà. Vraiment, elle m'impressionne.
Tu la trouves impressionnante, toi?
Oui. Oui, vraiment. Elle s'exprime extrêmement bien. On sent de l'aplomb, du calme aussi.
Oui.
Dans la crise des îles de la Madeleine, elle s'est conduite avec dignité, efficacité et tout ce qu'il faut.
Oui, on l'a senti en contrôle, effectivement. Effectivement.
Alors vraiment, dans ce sens-là, c'est clair que ça va être une vedette du gouvernement, mais on ne sait jamais, une gaffe peut arriver.
Ah ben oui, une gaffe peut arriver, de la même manière qu'on peut penser que certains ministres ne seront pas bons puis nous surprennent. Alors, dans les prochaines minutes, dans le fond, c'est un peu ton bon coup du jour, si on pourrait dire, c'est que on va faire un peu la revue de cette première session du nouveau gouvernement de la CAQ.
Oui. Hein,
parce qu'ils s'en sont pas trop mal sortis.
Non, effectivement, pour ce qui est de la mécanique, tu sais, le jeu en politique, comme tu sais mieux que moi, Bernard, c'est de prendre le contrôle de l'ordre du jour, prendre le contrôle, pour employer l'anglicisme, de l'agenda.
Oui.
T'es un nouveau gouvernement. Ça fait, d'abord, t'as jamais été au pouvoir. Il y a une seule personne qui a de l'expérience. Il y en a une et demie, disons. Marguerite Blais a de l'expérience, mais pas à un niveau très senior. François Legault a eu quand même des postes importants dans le gouvernement.
Mm-hmm,
et là, tu as toute une équipe de nouveaux. Puis là, il faut que la fonction publique s'adapte à toi. Puis il faut que tout le monde comprenne que ça va être un nouveau départ, puis ça va être différent. C'est pas facile.
Mm.
Et ils ont bien réussi cette opération-là. Si tu me permets, tu le prendras pas personnel. Opération que je trouve que Pauline Marois n'avait pas réussi en 2012.
Mm-hmm,
le
mm-hmm.
début avait été extrêmement chaotique. Tandis que... Je dis pas que ça a été sans faute, c'est pas un sans faute. Et en plus, je ne parle pas du fond des projets de loi, je parle de la forme. Ils ont pris le contrôle de la machine pas mal vite, pas mal vite. Puis ils ont eu un discours du trône qui était moins lyrique que ce à quoi on est habitué, moins poétique que tout le reste. Mais la
liste était dans le pragmatisme. Hein?
Oui, puis la liste était claire. T'sais, j'aime ça, moi. C'était clair. Voici ce qu'on va faire. On va faire ça.
Mm.
Puis là, il a décidé d'utiliser ces deux semaines pour déposer trois projets de loi importants,
exact.
Lesquels touchent quelques-unes des promesses électorales les plus importantes de la CAQ lors de la dernière campagne électorale.
Donc, on parle des trois projets de loi, c'est-à-dire les taxes scolaires,
oui.
L'âge légal du pot qui passerait de 18 à 21 et finalement la nomination deux tiers du commissaire à l'UPAC.
Trois promesses phares.
Oui, bien sûr. CAQ. Alors, parlons un petit peu de certains des ministres, des nouveaux ministres qu'on découvre. Hein, parce que il y a eu quand même des surprises agréables. Par exemple, Marie-Chantal Chassé, la ministre de l'Environnement.
Écoute, juste avant que la session commence, tout le monde était comme, on en salivait, en voilà une. Ça démontre comment on peut être cruel à l'égard des politiciens. En voilà une qui va se planter.
Ah oui, celle-là, les gens étaient convaincus qu'elle allait se faire dévorer par les lions dès la première journée, hein, dans la fosse aux lions qui est la politique.
Et elle l'a transformé en le jeu de l'arroseur arrosé. Quel est votre plan pour les changements climatiques? Et patati et patata.
Ça, c'était la libérale qui lui posait la question.
Tout à fait. Alors, elle se lève debout, puis elle dit, ben justement, on vient d'avoir un rapport. Puis le rapport démontre que, tu sais, depuis 2014, c'est-à-dire l'élection de M. Couillard, non seulement on n'a pas respecté nos cibles, mais ça a commencé à remonter. Ça ne reculait plus.
Les gaz à effet de serre.
Oui, les gaz à effet de serre. Puis deuxièmement, vous savez que vous n'en aviez pas de plan. On a fouillé dans tous les tiroirs. Vous n'en aviez pas de plan. On n'en a pas trouvé. Alors, elle leur a cloué le bec.
Mm.
Et ça a dû être un moment de... ouf, un genre de détente qu'elle a dû vivre après ça.
Ah oui, parce qu'elle avait de la pression, elle.
Elle avait de la pression à cause de sa première intervention. Alors, donc ça, c'est parmi certainement les bons coups.
Je vais te faire écouter un extrait, parce que un extrait de Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, parce que ça démontre la difficulté des libéraux, évidemment, avec ce nouveau gouvernement-là. Eux autres, ils se sont fait sortir du pouvoir à coups de pied dans le derrière, et là, ils se présentent comme les défenseurs des citoyens, puis ils montent aux barricades. Alors, c'est Gaétan Barrette qui pose une question à Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor. Écoutez ça.
Monsieur le Président, sur l'importante question des préposés qui est revenue à l'actualité la semaine dernière, le président du Conseil du Trésor va-t-il maintenant s'asseoir avec leurs représentants et négocier des conditions de rémunération plus attractives pour augmenter leur nombre maintenant?
J'aimerais lui rappeler que l'essentiel des augmentations a été faite aux médecins spécialistes dans la dernière année. Et je pense que si la même priorité avait été mise sur le personnel infirmier dans tout le reste du réseau, peut-être qu'on ne serait pas en train de se parler des problèmes dans les hôpitaux ce matin. Je lui donne ça comme réflexion. Vous avez créé un grand, grand surplus grâce aux économies que vous avez faites sur le dos de la population. Et ça, c'est encore pire.
Et blanc dans les dents. Bang!
Oh, boy!
Et les libéraux, ça, ils sont depuis deux semaines qu'ils tombent dedans sans arrêt. Et telle affaire, ben oui, je comprends, c'est vous autres qui avez pris la décision. Et puis telle autre affaire, ah ben là, venez pas vous plaindre, c'est vous qui l'avez faite. Alors ça, je suis pas sûr que les libéraux avaient bien vu venir ça.
C'est comme s'ils n'avaient pas fait l'ajustement. Comme s'ils n'avaient pas trouvé leur ligne d'attaque encore, les libéraux. Puis c'est pas évident, franchement, de la trouver. Qu'est-ce que tu veux? On dit toujours la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, ils attaquent, sauf que la rondelle leur vient en pleine face.
Oui, mais c'est rare. Ça serait difficile de trouver quelque chose qu'on peut blâmer sur la CAQ présentement. Ils commencent à assumer le pouvoir.
Ouais.
Il y a eu la déclaration économique, la mise à jour économique.
Oui.
Ça, il aurait pu avoir un moyen d'attaquer, mais pas tant que ça. L'Itao s'est essayé.
C'est dur d'attaquer des baisses de taxes. Oui, puis des augmentations d'allocations familiales. Puis ils ont donné un appui aux aînés aussi, là, à faible revenu. Fait que, on a parlé donc de deux ministres de la CAQ, Mme Chassé et M. Dubé, qui s'en sont bien sortis. Simon Jolin Barrette, qui a plusieurs dossiers, il est leader, il s'occupe de l'immigration, puis il s'occupe de la laïcité. Lui, il en a épais ses épaules.
On le sent stressé, ce jeune homme.
Bon, il a donné une entrevue avec Paul Arcand où... Puis à un moment donné, il était trop sur ses lignes, là. Ouais. Ça faisait un petit peu trop cassette. Et à un moment donné, Paul était comme un petit peu
irrité.
On va écouter un extrait.
Et s'assurer que ça réponde le profil des...
Est-ce que vous avez compris ma question? Avez-vous compris ma question ou si vous me sortez les cassettes qu'on vous a préparées?
Non, M. Arcand, ce qu'il faut comprendre...
Ma question, c'est êtes-vous sur la même longueur d'onde que le fédéral face aux réfugiés?
Le Québec accueille sa part de réfugiés humanitaires. Il l'a toujours accueilli. Et on se retrouve dans une situation aussi où les migrants, au cours de la dernière année, on a accueilli près de 50 % des migrants de tout le Canada par le chemin Alors, le Québec fait au-delà de sa part...
Je comprends. Vous avez sorti vos lignes. On a perdu assez de temps ce matin là-dessus. Quand je pose une question, je m'attends à une réponse. Je pensais que la CAQ, c'était différent, là. Ça me rappelle d'autres, d'autres ministres. 7h40 minutes. Non, fini. Correct, c'est beau, là. C'est...
Oh, boy!
Oh là 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 là.
Ça, là, je vais te dire, moi, j'en ai fait des entrevues avec Arcand, là, quand j'étais en politique, là. Puis il est tough, Arcand.
C'est
dur. Faut que t'arrives préparé. Puis, donne-y pas trop de bullshit parce que ça va finir comme ça a fini là.
Et à juste titre, c'est Jolin Barrette, là, ça fait quand même. C'est son deuxième mandat.
Il est très habile, habituellement, il est très bon, mais là, trop sur ses cassettes.
Il est très, très stressé, ce jeune homme. Il est très, très stressé. Je l'ai rencontré au Salon du Livre de Montréal juste avant le début de la session. Je te le dis, là.
Mm.
C'est un gars qui il sait qu'il en a pas mal épais sur son assiette.
Tu sentais la tension intérieure.
Oui.
Bon.
Oui.
Alors, écoute, on veut se garder un petit peu de temps pour parler de Donald Trump parce qu'il y a des développements à ce niveau-là. Le docteur Lionel Carman, on n'entendra pas d'extrait, mais hier, là, quand il a proposé un débat sur l'augmentation de l'âge légal pour consommer l'alcool, puis essayer de rectifier le tir après coup, puis il a juste trouvé...
Il pédalait.
Mais tu sais qu'ils l'ont renvoyé devant la caméra pour qu'il défasse ce qu'il avait mis au jeu malencontreusement en suggérant d'augmenter l'âge légal de l'alcool. Il le retourne devant la caméra pour dire, là, tu vas nous enterrer ça. Puis il a pas réussi à l'enterrer. C'est Legault qui est obligé
de dire non!
Non!
Lionel, non!
Bon, puis un petit événement cocasse qu'on note comme ça avant d'aller
Monsieur
à la pause.
Monsieur Legault qui est tombé sur ses foufous.
Et voilà!
En essayant de s'asseoir.
Ben, c'est-à-dire que Mme Guilbeault a tassé sa chaise, mais elle l'a pas remis en place assez vite.
Alors, Monsieur Legault a eu les quatre fers en l'air.
Mais hein? Mais il s'est pas fait mal. Parce qu'on peut se faire mal au dos, c'est des fois. Il y a du monde
absolument.
Qui est bon. OK. Alors ça, c'était ta bonne nouvelle du jour. Somme toute, ça se termine plutôt bien. Puis ils vont même mettre sur pied un comité là, pour regarder le code vestimentaire à l'Assemblée nationale.
Ça, ils sont mieux de faire attention hein? où ils s'en vont avec ça. Ils sont mieux de faire très attention où ils s'en vont avec ça. Trompons-nous pas. Là. Québec solidaire a identifié sa cible de l'électoral. Puis ce qu'ils font leur fait plaisir. Trompons-nous pas.
Tu penses que ça lui fait plaisir, mais tu penses que ça lui fait du bien aussi. Tu penses que c'est bon pour eux.
Je pense que la notoriété en politique, surtout quand tu commences, c'est extrêmement difficile à bâtir parce que tu es loin d'être tout seul sur la glace.
Puis elle l'a bâti.
Elle l'a bâti, puis Zanetti aussi.
Oui.
Puis les deux, en plus, à travers ça, font preuve d'un peu d'humour. C'était quand même assez cocasse.
OK. Ça. Excellent. Alors, on va s'arrêter parce qu'au retour, il faut parler un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis parce que ce qui se passe aux États-Unis finit toujours par nous rattraper dans un instant.
Drainville PM. La voie est libre.
Alors, Luc, ça, c'est ta mauvaise nouvelle du jour maintenant.
Trump est en train de faire le ménage dans son entourage.
Dans les voies raisonnables encore qui restent.
Effectivement. Madame qui était aux Nations Unies, elle vient d'être remplacée par une commentatrice de Fox News.
Ah oui? Ah, j'ai pas vu ça passer.
Heather Nauert, qui était depuis un an porte-parole officielle du State Department du ministère des Affaires étrangères.
Ah, uh-huh.
C'est bon. Et puis William Barr, ça c'était un choix plus judicieux.
Ça c'est pour le poste de...
Procureur général. Il y avait mis Whitaker, là, mais qui était tellement controversé, alors que William Barr, c'est un ancien attorney general de George Bush père.
Ah, okay.
Alors ça tombe la bonne semaine, là,
ouais,
c'est
ouais,
dur
ouais.
de le critiquer.
Exact.
Maintenant la grande inconnue,
oui.
c'est le général Kelly, le général John Kelly, qui est le chief of staff de la Maison-Blanche depuis juillet 2017.
Oui.
Et qui, semble-t-il, va s'en aller dans les prochains jours. Aujourd'hui, il n'était pas à la Maison-Blanche. Ce soir, paraît-il qu'il y a une fête de Noël pour le staff de la Maison-Blanche. Il devrait être présent, mais il se tient à l'écart.
Lui, il est très, très important, là, parce que c'était l'espèce de... C'est le principal
garde... La voix de la raison.
Oui, le principal garde-fou. Dans ouais. l'entourage
des
de Trump.
Institutions,
ouais. oh,
des
oui.
institutions.
Une chance, lui, il nous rassurait. Quand on était inquiet là, que Trump fasse une grosse connerie, on se dirait le général Kelly au moins est là, mais ouais. là, il pourrait partir.
Mais il paraît que récemment, le général Kelly a eu. C'est devenu complètement chaotique à l'intérieur. D'abord, il n'y avait plus accès à Trump. Trump le critiquait à toutes sortes de personnes, ça revenait à ses oreilles. Trump disait de lui il ne connaît rien en politique, je m'en vais dans une élection présidentielle dans 2 ans, blablabla. Et là, Kelly, qui aura fait preuve d'une loyauté
ouais.
aveugle quasiment jusqu'à la fin, c'est-à-dire que sur la place publique, il n'a jamais critiqué.
Non.
Et je pense qu'il va partir silencieusement.
En bon militaire.
En bon militaire qu'il est. À la retraite, écoute, c'était un militaire 4 étoiles. Des 4 étoiles dans l'armée américaine, c'est énorme. Puis il était un Marine, c'est
oui,
le corps des élites de l'armée américaine. Alors, il va partir, il va se la fermer, ça va être très bien. Puis ça va succéder à qui? L'autre de qui on disait qu'il était une voix de la raison. C'était Rex Tillerson, son premier secrétaire d'État, son premier ministre des Affaires étrangères. Tillerson est parti sans dire un mot, ou à peu près, à part de saluer les gens. Il a donné une première entrevue hier soir à CBS News. Et il n'a pas été... Je l'ai écouté, l'entrevue, puis j'ai pris des notes. Là, ce qui en ressort beaucoup,
ouais.
ce qu'il a dit de Trump. Un, c'est un homme très indiscipliné. Puis j'avais de la difficulté avec ça, parce qu'à Exxon, d'où il venait,
oui.
c'est la discipline qui règne. Deux, c'est un gars qui n'aime pas lire, ça l'ennuie. Trois, et là ça devient plus troublant, c'est un gars qui essaie constamment de faire des gestes illégaux puis de nous les imposer.
Pardon?
Oui, oui.
Il a utilisé le mot « illégal »?
Illégal, oui, complètement.
Oh, ben
puis,
là c'est grave.
En plus,
là.
Il a dit genre... Tu sais, il était... Il avait pas l'air d'un gars agressif, mais il disait un peu ce qu'il pensait. Puis il a terminé en disant, moi ce que j'ai appris aussi dans cette job-là, c'est que je suis extrêmement troublé de constater que les Américains semblent se contenter de très peu d'informations à propos des grands enjeux qui nous préoccupent. Et évidemment, il faisait référence au fait que Donald Trump a choisi de communiquer en 144 caractères par Twitter.
Ah oui.
Alors, c'est comme... Il dit, moi, j'étais dans une organisation où les processus étaient respectés, où, et j'ai fait toute ma carrière là. Quand je me suis retrouvé dans cet environnement, je vous avoue que j'étais un peu perdu et que j'avais très souvent l'obligation de dire, Monsieur le Président, je comprends ce que vous me dites, mais on ne peut pas le faire parce que c'est illégal.
Puis ça, ça me trouble. Furieux. Ça me trouble. Ça me trouble ce que tu me dis là.
Ben, moi, ça me trouble aussi. Mais ça m'étonne pas.
Mais quelqu'un qui viole la loi, à un moment donné, il y a des conséquences. T'as beau être président, là.
On attend le rapport Mueller.
Mueller, là.
Et Mueller semble... Moi, j'ai l'impression que Mueller va nous déposer son rapport au début de l'année. Il va prendre le contrôle de l'année 2019.
Tu penses-tu qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait vraiment embarrasser Trump? Écoute,
Michael Flynn, là, non seulement il est devenu collaborateur du procureur Mueller, ça, c'est le premier que Bush a sacré dehors, son premier conseiller de la Sécurité nationale. Ouais, ouais. Il paraît qu'il a tout dit ce qu'il savait. Il paraît que Michael Cohen, celui qui était l'avocat, là, qui payait les femmes avec qui Trump couchait, lui aussi s'est mis à table, puis pas à peu près. Et il paraît qu'il détiendrait des informations, Mueller, absolument renversantes. Par exemple, une des dernières qu'on a apprises, là, c'est que lors de son inauguration, de sa prestation de serment, Trump, son hôtel, Trump Hotel, qui est direct en avant de la Maison-Blanche, ou pas loin, pas direct en avant, l'ancien bureau de poste de Washington, là, eh bien, il y a 500 chambres dans ça. Et ce sont des vétérans de l'armée et des guerres américaines qui avaient été accueillis là et qui avaient l'impression que c'était Trump qui les accueillait avec courtoisie. Eh bien non, les 500 chambres avaient été achetées par des lobbyistes de l'Arabie Saoudite.
Hein?
Eh oui. Et c'était les Saoudiens qui ont acheté les 500 chambres.
Pour les anciens combattants?
Pour les anciens combattants.
Fait que tu te demandes après ça, pourquoi Trump...
Ils ont-tu rendu service, tu penses?
Eh.
Et ensuite, t'as le prince dont le nom est tellement long.
Ben Salman, là?
Non, c'est
un autre. Hein?
Mais l'autre, le plus riche de la gang, celui qui possède les hôtels Four Seasons et tout ça.
Ouais.
Lui, il a dit, faites bien attention parce que Trump, là, je l'ai sorti du trou moi-même au moins 3 fois. Dont une fois où j'y ai acheté un penthouse de 50 millions dont j'avais pas besoin, mais il était au bord de la faillite, encore une fois. Alors, je pense que tout ça va arriver à sa fin. Là. On rentre dans le mur bientôt. Là.
OK. Ben,
on le souhaite du fond du cœur.
J'allais dire, on commence à avoir hâte que ça arrive.
Oui,
je te souhaite une bonne fin de semaine, toi mon aussi. Cher Lavoie. On se reparle lundi et c'est Christian Page qui s'amène, notamment pour nous parler des Chinois sur la Lune, parce qu'on parle beaucoup des Russes quand il est question de Trump, mais il faut toujours... Gardez à l'esprit le véritable adversaire maintenant des Américains, c'est les Chinois. Ils aspirent à aller sur la Lune dans un instant.